Mais il se souvient du vol des perroquets annonçant la saison sèche.
Le ciel terne, comme en proie à la nostalgie de la pluie qui ne tombera plus de sitôt.
Les chenilles partout sur les branches nues des arbres. Midi, et le soleil encore voilé. C'est en cette saison-là que Nindia eut soudain le visage pareil à celui du masque qui se dandine perché sur les échasses. Visage pensif, mais où flotte pourtant ce sourire qui réveille les soupçons. À voix basse, elle disait que la saison était enfin venue d'essuyer les larmes. À mots couverts, sa bouche faisait dériver les lacs jusqu'à Petite Venise. Dans la certitude de son voyage à portée de jour, Nindia s'était soudain débarrassée de ces mots de toujours qui accompagnaient les mêmes gestes, pour surgir, méconnaissable, avec d'autres mots et d'autres gestes. Elle, qu'on disait grave, à cause de son malheur à nulle autre femme pareille d'un bout à l'autre de Petite Venise, se montrait au grand jour capable de rire aux éclats pour un rien. Ce n'étaient plus les autres qui venaient vers elle, c'était elle qui courait à leur rencontre, non pour être plainte, mais pour confier, par autant de signes qui ne trompaient pas, qu'elle était femme qui se sentait bien dans le cercle des femmes. En effet, jamais personne ne lui avait connu ces yeux pétillants de malice, cette jovialité dans la voix, cette insouciance dans les attitudes. Il y avait même, dans la manière dont elle nouait maintenant son foulard, une extravagance que plus d'une personne trouva indigne d'une femme faite épouse. Tant d'insolence et d'irrévérence avec la malédiction de son ventre ne manqua pas de soulever les questions. Prudente, elle se gardait bien pourtant de révéler la cause de sa métamorphose à tout venant.
Face à ses voisines qui, insidieusement, voulaient savoir où elle en était avec le lieu de son corps où résidait le malheur, elle prenait un air mystérieux pour répondre que rien désormais ne l'étonnait, pas plus son ventre que le chant d'un hibou dans l'après-midi.
Puis elle se perdait dans des anecdotes interminables qui plongeaient son auditoire plus encore dans la perplexité. Mais n'était-ce pas compromettre le voyage que de le crier d'avance sur tous les toits? Sait-on jamais où se tapit le mauvais œil? Pour cela, rien que pour cela, les lacs devaient tarir de temps à autre dans la bouche de Nindia. Mais, une fois revenue dans la bicoque, assise entre l'époux et le fils, Nindia contemplait les paysages suscités par son murmure incessant. Là, la poussière de la piste truffée de trous au bout de laquelle se profilait la nappe ocre d'un fleuve charriant la fertilité des contrées. Là, la silhouette vigoureuse de la sœur de Cotta mariée sur l'une des berges du fleuve. Elle saura lui indiquer l'heure et le pagayeur. Voilà Nindia assise à l'avant de la pirogue. Elle glissait sous l'escorte de la forêt. Elle glissait sans arrière-pensée jusque là où la forêt soudain se clairsemait, devenait champ de roseaux, herbes rases, avant de ressurgir de loin en loin, reconstituée, verticale, épaisse, laissant ce vide, ce ventre immense que le fleuve comblait en frissonnant sous un ciel lumineux. Là, Nindia soudain savait qu'elle était enfin arrivée et que rien ne devait la faire se retourner. Rien! Pas même le cri et les remous si d'aventure à cet instant précis un des compagnons du voyage venait à tomber dans l'eau. Ses yeux étaient rivés à l'île née des amours du fleuve et de la forêt, et sa main esquissait le geste recueillant l'eau pour se laver le visage.
« Tu ne diras rien à personne tant que je ne serai pas revenue. »
s'empressait-elle de recommander à Anka.
« Personne, tu entends. Si on te demande où est Nindia, réponds, mais ne dis pas où je serai demain. »
Des mois s'étaient écoulés depuis ce mois de juin où Nindia s'en alla dans les lacs. Quand reviendra-t-elle? Ce n'étaient plus seulement ceux qui ne voyaient pas quelle raison pouvait retenir une femme faite épouse, loin de son foyer, qui se posaient la question, mais Cotta lui-même. Le calme dont il avait fait montre depuis le départ de Nindia s'était évanoui comme si un vent violent s'était levé en lui, ramenant l'agitation, la mauvaise humeur et les plaintes. Pour lui, il n'y avait plus de doute. Le remède n'était pas du côté des lacs. Alors, il cherchait l'ailleurs qui rendrait à Nindia ce ventre, sans lequel, il était certain, elle ne pouvait le regarder comme se doit une femme faite épouse. Il cherchait, et ses yeux le conduisaient irrémédiablement entre le grand fromager et la rivière de Gros Galets, face à la mer. Là-bas, il ne voulait rien d'autre qu'écouter dans le frémissement du vent la voix terrible de la divinité de l'eau, l'accablée de reproches. N'était-elle pas la suprême épouse de ceux qui vivent de la mer? Elle disait au bien-aimé, « Puise, puise, tant que tu voudras l'or renouvelé de mon immense royaume. Partage ainsi mon règne. » Mais par-dessus tout, n'était-elle pas la toute jalouse? Elle tendait la main et ne pouvait s'empêcher de dire, « Prends garde, mon bien-aimé. Songe à ma colère si jamais tes yeux se détournaient de moi. » Kota, qui avait fait de Nindia une épouse, ne voulait rien d'autre qu'être cet homme infidèle, debout sur la grève, dont le murmure matinal répond à celui des vagues.
« Ne t'offense pas, ma reine. Calme ton océan de ruse. Rengaigne ton couteau. Tu vois bien que Nindia est de la race de ma mère, rien qu'une esclave, née pour servir notre règne. Toi seul me comble véritablement. Alors, laisse, de grâce, laisse ta servante remplir jusqu'au bout son rôle. Laisse Nindia faire sourdre l'huile de l'amande des palmes, dont le parfum chante la louange de ton époux royal. »
Mais là-bas, la prière de Kota se fracassait contre la digue, retenant désormais la mer où n'allait plus se jeter la rivière nourricière. À l'approche de la terre des pères, seulement l'absence du chaleureux corps à corps. Non pas le vide ni le silence qui montrait d'un désert, mais l'aboiement obstiné d'un chien féroce derrière une clôture hérissée de tessons. Mais une gigantesque maison toute de pierre et de verre. Kota se sentait un intrus sur sa terre. Pris de désarroi, il n'avait d'autre recours que de s'adresser à Anka.
« Regarde, mon unique, regarde. Sois témoin de ce qui hante mes nuits. »
Et Anka, qui justement ne voulait pas voir, se surprenait lui aussi à se demander ce que pouvait bien faire Nindia loin de Petite Venise, à l'heure tardive où il appelait son chant. La réponse devait pourtant venir le jour où Sitongi fit de nouveau irruption entre collines et marécages. À peine était-elle assise que Kota s'empara de la parole, croyant ainsi rendre sans objet le regard scrutateur de la fille aînée de son père. Voyait-elle? Son fou de frère avait refusé l'argent offert pour dédommager la perte de la case en terre battue. Si c'était pour lui faire entendre raison qu'elle avait fait tout ce chemin, elle pouvait repartir tout de suite. Elle pouvait regagner les berges de son fleuve. Là-bas, au moins, sa voix ne pouvait prétendre à plus qu'elle n'était. Une voix de femme, rien de plus. Comme si Tongi ne disait mot et continuait seulement à fixer Kota, ce dernier ajouta.
« Peux-tu me dire, ma sœur aînée, en quel pays se trouve l'or qui peut acheter mon lopin de terre ?»
Et comme si le ton de Kota venait de l'inviter à une réconciliation, Sitongi répondit. « Je vois que les nouvelles ne vont pas aussi vite qu'on le dit. Les mauvaises encore moins vite que les autres. Ce sera donc moi qui t'apporterai celle des lacs. » Pour cela, elle voulait que son frère se montre digne. Lui qui avait épousé Nindia, cette femme de rien, qui imposait ce voyage alors que les tubercules de manioc du vieux champ, pour ne pas pourrir en terre, exigeaient que Sitongi soit là-bas. Mais de quoi aurait-elle eu l'air si elle s'était refusée à venir dire qu'à l'heure qu'il était, les lacs avaient comblé Nindia? Son ventre, jusque-là muet, avait répondu aux interrogations d'un homme qui n'était pas Kota. Nindia, faite chienne, attendait un enfant. Comment appelle-t-on encore la femme qu'ensemence un homme tout autre que l'époux?
Sitongi refusait de dire.
Elle-même, faite épouse, savait qu'elle ne devait pas prononcer les mots qui écorchent vive la race des mères. Mais elle était, malgré tout, fille aînée de son père. Elle était cette sœur sentinelle qui veille sur l'héritage. Alors, rien que d'imaginer les vagissements de cet enfant venu d'ailleurs, ce vil complot ourdi contre la lignée de ses pères, elle écoutait en silence la gifle sans pareille que le ventre de Nindia assénait ainsi à son frère. Voici soudain revenu sur les lèvres de Sitongi le chant qui saccage l'envie de bercer ce frère qu'elle précéda dans le ventre de sa mère. Ce frère qu'elle appela pour la consoler. Elle dont le premier cri ne fut pas tout à fait celui qu'attendent les pères. Elle ne voulait pas le bercer. Elle ne devait pas, de peur qu'il s'endorme, de peur qu'il oublie. Mon frère s'essouffle à la pagaie, mais il sait comment se noyer. Pagaie courte, mon noyer, qui t'a dit, qui t'a dit? Le sel ne peut pas être plus doux que le rire des femmes. Longtemps après que Sitongi fut reparti, Kota continua à maudire la femme faite chienne qui ne pouvait plus être la sienne. Il parlait de la remplacer par une autre, mais se rappelait aussitôt qu'elles sont toutes de l'argile dont on peut faire une chienne. Alors, un fleuve remplissait son rêve. Il était fleuve dont le trop-plein se distribuait aux quatre coins d'une terre assoiffée qui le réveillait, sec, aride, désert. En fin de course, la mer, profonde plus qu'aucune tombe, elle l'étreignait. Kota la suppliait à haute voix de le garder à jamais dans ses replis. Mais pour cela, il n'aurait pas fallu la présence d'Anka, tel un reproche qui interdisait aux yeux du père le spectacle bienfaisant de son propre cadavre nourrissant les mulets. Qui avait dit à Kota? Qui lui avait dit? En vérité, le sel n'était pas plus doux que la solitude d'un orphelin. C'est la raison pour laquelle il allait encore en mer pêcher la dorade et la crevette et s'en revenait vivant. Alors que son fils s'approchait, Kota voulait le voir de plus près. Les doigts d'Anka, son front, ses lèvres, ses yeux, sa démarche, sa voix. Rien n'échappait plus au regard vigilant du père. Et si, là aussi, un autre à sa place avait semé? Mais il y avait toujours ce mais qui le ramenait là-bas où Anka était né, dans la case en terre battue, entre le grand fromager et la rivière de Gros Galet. En ce temps-là, Ninya n'aurait jamais osé. Comment aurait-elle pu, alors que Kota était l'époux pareil à la poutre qui soutenait son toit? Voilà soudain Anka redevenu son fils unique, conçu quand il était debout, et ses nuits différentes de celles de Petite Venise, où il se voyait rat, rien qu'un sale rat, qui escaladait les collines, traversait la ville pour aboutir au port où il s'embarquait sur un des chalutiers d'une compagnie étrangère qui lui versait le salaire mérité par ceux de son espèce à la fin de chaque mois. « Que la mer l'emporte !» disait Anka la veille de chacun des départs du père. « Que la mer l'emporte à jamais pour que revienne le sommeil profond !» Mais pourquoi, alors que père était en mer, le silence semblait-il n'être plus tout à fait le même? Anka, qui s'interdisait de se poser les questions, se demanda alors d'où viendrait son chant à lui, pareil à celui de Ninya où s'entrevoit le miel au bout des épines. Alors il s'efforçait de hausser les épaules, affirmant encore qu'il n'était nullement blessé, que seuls se blessaient ceux qui ont des yeux pour voir ce qu'il y a derrière toute chose. Cependant, malgré ses efforts pour se persuader que les démêlés de Kota avec la vie ne le regardaient pas, il n'arrivait plus à retrouver la paix. Il se sentait seul. Non pas comme il l'avait toujours souhaité, mais seul et vide. Comme s'il désirait, comme s'il lui manquait quelque chose d'urgent et d'essentiel qu'il ne savait pas comment nommer et dont la réalité se réduisait à la souffrance qu'infligeait son absence. Tout, à commencer par son nom, clamait la dérision de ses certitudes d'antan. Lui, Anka le mal nommé. Lui qui n'était plus la seule récolte du ventre de sa mère, voulait qu'on lui dise son véritable nom. Cette seule pensée le remplissait pourtant d'effroi, comme si le nom dont il devait hériter ne pouvait que porter une malédiction et lui annoncer la mort par le feu, l'eau et l'empoisonnement. Du coup, il ne voulait plus savoir. Il était toujours lui, Anka, le bien nommé, l'unique fils, si ce n'était de sa mère, alors seulement de son père. La course, Anka, l'envol, ton cœur qui cogne, et le sommeil viendra, facile, profond. Étrange cette fois. Elle, d'habitude ferme, montait à présent si faible, au moment même où Anka avait plus que jamais besoin de l'entendre démentir ce que les yeux prétendaient voir. Pour aider cette voix secrète à retrouver sa force, il courut vers l'école. Ce fut comme si, au cœur de la saison sèche la plus aride, il allait puiser à la seule source qui ne pouvait tarir. Il allait reprendre sa place en un royaume de vérité où Kota et Nindya n'avaient pas accès. La course, Anka, l'envol, ton cœur qui cogne, et le sommeil viendra, facile, profond.
Mais au moment où le maître tourna le dos à la classe pour joncher le tableau noir de sa belle écriture, voilà que les battements de cœur d'Anka couvraient les murmures de ses compagnons de jeu.
Il dit que ce n'était rien, rien que son cœur qui battait dans l'attente de la récréation. Ce n'était pas une raison pour que chaque mot prononcé par le maître sollicitât ainsi son attention. Il s'agissait en l'occurrence d'une leçon d'hygiène portant sur les microbes, ces bestioles si minuscules qu'on ne peut les voir à l'œil nu. Cependant, Anka les voyait.
Énormes, monstrueuses, elles grouillaient de partout, investissaient la moindre petite parcelle de petite Venise, raréfiaient l'air, s'engouffraient par les pores d'Anka soudain dilatés, s'emparaient de ses organes jusqu'à cette suffocation que rien ne semblait pouvoir apaiser. Surtout pas les conseils que le maître se mit alors à donner aux élèves pour qu'ils se prémunissent contre l'assaut de cette armée ennemie.
Ses camarades de classe voyaient-ils ce qu'Anka ne pouvait s'empêcher de voir à cet instant-là? À leur mine hilare, rien ne permettait de le supposer. Leurs yeux étaient résolument posés ailleurs. La lumière du dehors les distrayait. Ce serait peu de dire qu'Anka les enviait. Il les enviait jusqu'à la haine, ses complices d'hier qui l'excluaient aujourd'hui et l'abandonnaient au milieu de ce grouillement mortel face au maître qui ne semblait plus s'adresser qu'à lui.
« Qui veut maintenant me réciter les climats ?»
demanda le maître.
« Moi, monsieur, moi, monsieur !»
Une voix monocorde se mit aussitôt à arpenter le monde d'un pôle à l'autre. « Par là, froid. Plus bas, tiède. » Chaud par ici, mais néanmoins sec. Alors que là, pas aussi chaud, mais humide.
C'est bien,
fit le maître satisfait.
C'est important, vous savez, le climat d'un pays. C'est lui qui détermine la flore et la faune que nous avons déjà vues ensemble, et bien d'autres choses encore que nous verrons au fur et à mesure.
Anka sentit la sueur déferler le long de son échine. Il avait peine à déglutir tant sa gorge était nouée. Le tournoiement dans sa tête faisait que rien ne ressemblait plus à rien. Ni le maître, ni les élèves, ni Petite Venise. C'était comme si une bourrasque s'engouffrait dans la salle. Une bourrasque comme il y en avait deux ou trois au plus fort de la saison pluvieuse, quand les arbres étaient soudain pris de frénésie et le ciel devenait si sombre avant de s'effondrer, déversant ces trombes d'eau qui remuaient la boue et puis montaient jusqu'à hauteur d'homme, semant la panique à Petite Venise. Comment libérer ce cri en lui? Comment taire cette colique? Anka se pencha légèrement, contracta son ventre, s'agrippa de toutes ses forces au banc. N'en pouvant plus, il fit un mouvement brusque pour se lever. L'effort détendit ses muscles, soudain incapables de retenir cette somme d'angoisse qui se mit à ruisseler le long de ses jambes en un flot lourd et nauséabond. Les sifflets et les huées accompagnèrent sa course éperdue hors de la salle de classe. Anka courait droit devant lui. Il courait aveuglément, griffé par les hautes herbes. Puis il finit par s'écrouler, hors d'haleine. La joue contre le sol humide, il avait peine à respirer. Mais bien plus que cette douleur vive qui sciait ses côtes, c'était encore d'entendre au loin les huées de ses compagnons de jeu qui lui arrachaient les larmes. Il pleurait de savoir qu'ils n'étaient plus des leurs, eux dont les yeux ignoraient de quoi était faite la fatigue qui donnait à son corps cette lourdeur de pierre et le plaquait au sol. C'était pourtant un jour semblable à tous les autres. Sans présage autre que cette voix au fond d'Anka, si faible, si timide, elle qui tonitruait de certitude.